Dans la bande originale aujourd'hui, merci d'accueillir Leïla Kaddour Bouladi qui est notre invitée.
Je suis décidée, c'est mon émission.
Pas du tout, voilà.
Désolé Michel.
Pierre Lescure.
Bonjour.
Qui est là. Et faites du bruit pour Michel Bouchard. J'aime. Bon, Daniel Morin n'est pas là, donc je ne parle pas de lui, ça lui apprendra. Il aura un gage, il aura un blâme. Merci Michel de venir au micro de France Inter.
Mais c'est moi qui vous remercie,
merci,
cher ami.
Merci. Le spectacle s'appelle Ma vie rêvée, ça sera au théâtre Édouard VII à partir du 18 novembre jusqu'au 4 janvier 2015. C'est-à-dire que les fêtes de fin d'année, de Noël, de jour de l'an, vous êtes coincé au théâtre.
Avec plaisir. Mais bon, dès que j'ai fini, je vais rejoindre les enfants.
Mais il s'est bien démerdé parce que c'est à 19h. Donc oui. Il peut tranquille manger à l'heure.
Exactement.
Et rejoindre ses invités, ses convives.
Mais 19h, c'est un horaire génial qui fait que les gens peuvent aller au théâtre, aller dîner après.
Oui, parce qu'il y a le dîner aussi qui se passe.
Oui, il y a un restaurant au théâtre, effectivement.
Non, il y a une pièce qui sera à 21h.
Oui,
le dîner d'adieu.
Oui, le dîner d'adieu, pardon.
C'est ce que je voulais dire.
Oui, absolument.
Moi, je peux pas, je regarde France 2 à ce moment-là.
À 19h, bah, c'est bien.
Tous les jours.
Oui, parce qu'il n'oubliez pas les paroles.
On force.
T'as pas compris la vanne de.
Ah oui, c'est vrai, j'ai fait cette émission, n'oubliez pas les paroles.
Bon, d'accord.
J'ai gagné 22 euros.
Pardon. Et tu nous les dois encore. Au théâtre, donc, Édouard VII, ça sera du mardi au samedi à partir de 19h. Cette vie rêvée, 35 ans après Albert, il fallait trouver un autre angle, une autre manière de parler de sa vie, parce que vous parlez tout le temps de votre vie dans les spectacles.
Oui, d'une vie imaginaire en tout cas, parce que les personnages de mes spectacles, c'est pas ma famille, c'est pas ma mère de théâtre, c'est pas ma mère.
Il n'y a pas une base quand même, honnêtement.
Elles ont des points communs,
ouais.
Parce que c'est des mères, mais elles ne se ressemblent pas du tout.
Il y a toujours une part autobiographique dans tout ce qu'écrit Daniel Morin.
C'est pas bête son truc. Ouais. Mardi prochain, je fais pareil, 10h10.
J'en pouvais plus, en plus, je suis arrivé en avance, ça fait une heure que j'attends pour être
en
retard.
Non, mais referme son micro, t'as raison, ferme le micro. Non, t'es pas là, c'est tout.
D'accord, ok.
J'ai toujours inventé. Inventé à partir de la vérité, mais la vérité au théâtre, moi, m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'invention, c'est le rêve, c'est de réinventer les choses. C'est pas intéressant ma vie à moi, elle est pas intéressante. Celle de Roman Polanski, celle de Hemingway, ça, c'est des vies passionnantes au premier degré.
Et est-ce que vous inventez au quotidien dans la vie? Vous avez besoin d'inventer?
Toujours. Je raconte des histoires qui me sont arrivées et en fait, elles ne me sont pas arrivées.
Donc, on ne peut pas vous faire confiance.
Je suis très déçu.
Non. Ouais, moi aussi. C'est quoi? Ça veut dire mytho ou ça veut dire que...
Ça fait 40 ans que je crois que c'est sa vie.
Mais je tiens à vous rappeler que Cyrano Bergerac, il n'a jamais existé. Zorro non plus. Sganarelle non plus. D'Artagnan non plus.
Ah si, D'Artagnan a existé.
Il a existé.
Bah, tiens.
Mais pas comme dans le roman.
Encore.
Presque. Il est mort.
Mais pas comme dans le roman. C'est impossible. Il n'a pas rencontré Rochefort tout de suite au bout de 5 minutes. Il a quitté sans son père. C'est pas possible. Donc ça. Et il faut pas me la faire à moi. Donc qu'est-ce qui est beau? C'est d'inventer.
Ouais.
C'est de rêver. C'est de dire dans les spectacles, à travers des personnages qu'on invente, ce que nous, on a envie de dire. Quand je fais un garçon de 10 ans qui réveille son père à 4 heures du matin pour lui parler de la mort, et bien évidemment qu'à 10 ans, j'ai pas vécu ça. Mais de le mettre dans la bouche d'un garçon de 10 ans, c'est beaucoup plus fort. Et par contre, ce que je dis sur la mort, ou ce qui m'angoisse là-dessus, ou ce qui me fait rire là-dessus...
Est profondément ancré en vous.
Et bien sûr, c'est complètement sincère. Ce que je dis sur les seins des femmes...
Directement de la mort
sans transition.
Mais c'est Thanatos.
Les nichons.
J'ai employé un mot qui comprend mieux. Les nichons.
Non, Michel, je vous en prie, les seins, c'est très bien. La poitrine, c'est plus élégant.
Quand je parle, par exemple, c'est vrai. C'est vrai que j'ai parlé comme ça.
Oui. Avec un cheveu sur la langue.
Non, oui. C'est pas un cheveu, mademoiselle, c'est une messe. Dans mon cas, c'est une messe. Bon, j'ai parlé comme ça. Entre 10 et 16 ans, j'ai parlé comme ça. C'est parti un jour, j'ai pas compris pourquoi.
C'est dommage.
Je sais. Et c'est terrible hein, de parler comme ça. Parce qu'à l'école, à 10, 11 ans.
Tout le monde se moque.
Même le prof. Il me disait, ah, vous allez nous dire saucisson aujourd'hui. Non, monsieur, je vous en supplie.
C'est méchant, ça.
Et
que le prof le fasse, c'est méchant.
Exactement.
Plus un accent.
Plus l'accent
tunisien.
Absolument. Merci.
On le sent pas beaucoup. Là.
C'est vrai. Ah bon, tu veux faire mieux. et heureusement. Alors évidemment, quand je fais ça aujourd'hui, c'est plus moi. Ça a été moi une période de ma vie, mais ça me permet de parler de choses vastement graves. Parce que je parle de mes 68, parce qu'à 16 ans, c'était mes 68, ça a changé ma vie, ce 68.
C'est marrant quand même. Parce qu'à l'époque, la politique, âge, Michel, c'est moins crédible quand même de zozoter à ce point-là comme étant gamin.
Aujourd'hui. Mais c'est pas moi. Blague à part. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi maintenant. Il comprend rien.
Ma vie rêvée que vous jouez au théâtre, c'est aussi une manière de fuir la réalité. C'est aussi une manière de l'embellir, cette réalité. C'est aussi une manière d'être le rigolo que l'on attend en permanence.
Mais qu'est-ce que le monde serait si les rêveurs n'étaient pas là, où on en serait? Même si aujourd'hui ça va très mal dans beaucoup d'endroits, heureusement qu'on continue à rêver. C'est avec le rêve.
Encore plus besoin des rêveurs.
Mais ouais. Bien sûr, c'est avec le rêve qu'on fait avancer le monde. C'est pas avec les cauchemars. Donc, le théâtre, le cinéma, les romans, la peinture, c'est fait pour rêver. C'est pas, même si on sublime la réalité, même si on en parle autrement, je suis pas là seulement. Et j'adore ça, j'adore faire rire. Si je fais pas rire, je suis mort. Et en même temps, ça me permet de dire des tas de choses sur le monde, sur ce que je ressens. Quand il y a un personnage, c'est un bègue dans mon spectacle. Bon. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des enfants inadaptés. J'avais un enfant bègue. Il m'a beaucoup bouleversé, ce garçon. Je l'ai jamais oublié. Pourtant, c'était il y a des années et des années. J'ai voulu parler de ça. Parce que le spectacle, c'est pas que ma vie, c'est la vie.
Ouais, ouais.
D'accord ? Quand j'ai cherché comment le rendre beau. Parce que je l'aime. Et quand il dit, nous, les bègues, on a tellement du mal à dire les mots qu'on les choisit bien. Ça évite de dire beaucoup de conneries. Il y en a qui devraient bégayer plus souvent. Bon. À ce moment-là, tout d'un coup, bégayer devient un avantage.
Ouais, non, c'est joli, oui, c'est joli. Ouais. Vous avez un
bon pouvoir, c'est joli. Et je fais de ce handicap une force. Parce qu'au début, quand il arrive, les gens se marrent. Il y a les gens qui se marrent, il y a les gens qui se plaignent. Je suis trop long.
Non, je t'en prie.
Il y a les gens qui se marrent, il y a les gens qui se plaignent, et il y a les gens qui essayent de l'aider dans la salle. Parce que y en a, quand je fais et les gens, ils essayent de dire les mots. Et à ce moment-là, je retourne le truc et je leur dis, attendez, vous vous trompez tous. Tout le monde bégaye. Il dit, quand j'ai dit je t'aime à ma femme, eh ben, j'ai tellement eu du mal à le sortir qu'elle m'a cru. Hein. Et après, il dit, je bégaye pas seulement avec les mots.
Hein. Michel Bougelin est notre invité.
Elle est contente. Hein.
Ça s'appelle Ma vie rêvée. C'est au théâtre Édouard VII à partir du 18 novembre.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
On va vous soumettre des infos originales autour de l'actualité. Sûr. Vous n'hésitez pas à intervenir. Pierre Lescure, il semblerait que le 14e Dalai Lama souhaite être le dernier. C'est dingue, ça.
C'est un truc assez renversant. Tenzin Gyatso, qui est son vrai nom, comme tu savais.
On le connaît plus sous son pseudo, quand même.
Donc on va continuer à dire le Dalai Lama. A dit à un journal allemand qu'il entendait être le dernier chef temporel et spirituel tibétain. Il estime que, lui qui est le 14e, il estime qu'il n'y a pas besoin de 15e.
Mais quoi, parce qu'il n'a plus de rôle religieux ?
Il a délivré sa mission, lui et tous ceux qui l'ont précédé.
C'est un peu mégalo, non ?
C'est troublant, franchement. Ouais. Parce qu'il a été prix Nobel de la paix en 89, et déjà, il était le symbole d'un Tibet
qui était opprimé par la Chine,
qui devait symboliser la paix. L'unité, la fraternité. Il s'est retrouvé ensuite en exil. Il estime qu'il a joué au maximum un rôle politique pendant une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, il dit qu'il préfère abandonner le rôle politique, qu'il ne peut pas aller plus loin. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher sa réincarnation.
Leïla Kadour-Dadi.
Et donc, c'est terminé le bouddhisme.
Ça, je ne sais pas répondre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un vrai sujet. Parce que la foi, les valeurs demeurent, mais le rôle du Dalai Lama, qui était une référence morale permanente, pourrait s'interrompre.
Non, ce qui est fou, bien sûr, c'est que ce soit que lui puisse décider, après moi, le déluge, quoi, c'est fini, après moi, ça s'arrête et il n'y aura personne d'autre.
Oui, parce qu'il est quand même Dalai Lama depuis l'âge de 3 ans, il en a 76.
Ah, il a bien bossé en même temps.
Il a bien bossé et on avait commencé de rechercher.
Il a cotisé.
On avait commencé de rechercher parmi tous les Tibétains, sur place ou en exil, des enfants dont on pouvait se dire oh oui, je vais faire le test, il doit être réincarné.
Michel Bougenard aurait pu être un 15e Dalai Lama formidable. Vous en pensez quoi ? Ça vous aurait intéressé ?
Je sais pas. Ce qui me paraît bizarre dans cette histoire, c'est que est-ce qu'on arrête la réincarnation alors ? Bah, ils ne peuvent pas.
Ah, mais il est le patron.
Lui, il est taulier.
C'est lui qui décide.
Et en même temps, s'il nous écoute, s'il nous écoute, il peut appeler pour nous dire le temps. Leïla, parce que maintenant, il faut intervenir.
01-45-24-7000. Leïla.
C'est vraiment inquiétant, enfin prétentieux, oui, et puis surtout inquiétant pour la suite, parce que qui sera le chef spirituel des bouddhistes dans le monde, quand on voit par exemple en Birmanie les massacres des Rohingyas, absolument. Qui va appeler à la paix, c'est comme si demain il n'y avait plus de pape. Et on se rend bien étonnant, compte à quel point c'est important qu'il y ait un chef spirituel dans une religion. L'islam n'en a pas et on voit le problème.
Pour un chef spirituel de manquer d'esprit à ce niveau-là. C'est très 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 étonnant. Mais peut-être que c'était une interview, peut-être qu'il n'a pas mal traduit ou mal compris.
Ça a
non.
été mal traduit en allemand. Peut-être.
C'est le Weltanzeigen.
Peut-être.
Mais il était encore défoncé, ça doit être ça.
Vous n'êtes pas sans ignorer que ce soir, à 19h, tous les fous dingues d'informatique vont se tenir au courant de l'iPhone qui débarque. Est-ce que ça vous branche ou pas du tout, ces technologies, Michel Bougenard ?
Oui, j'adore, mais j'y comprends rien.
D'accord, mais est-ce que, par exemple, s'il y a un nouvel iPhone qui sort, vous allez absolument vouloir l'avoir ?
Non, je ne vais pas courir pour l'acheter. Ce que j'aimerais, c'est que le mien marche.
et savoir comment il marche, c'est ça ?
Oui, exactement, parce que j'ai énormément de mal avec ça.
Ce qui vous embête, c'est tout ce que peut faire le téléphone à part téléphoner ?
Non, c'est pas ça, c'est que tout ce qui est informatique...
Il y a des milliers d'applications...
Oui, ça je sais, je lis les journaux quand même,
d'accord.
Et j'écoute les copains, mais c'est pas ça, c'est que je n'arrive pas à me familiariser avec tout ça, c'est tout. J'arrive à faire des mails, j'arrive à les recevoir, parfois j'arrive à les envoyer, parce que je les fais et l'ordinateur il me fait « Ah non ».
Mais toi tu préfères les fax?
Mais lorsqu'on vient de recevoir un télégramme pour vous, Michel
Bougenard.
Vous
voulez que je vous dise la vérité?
Un nouveau message pour Michel Bougenard.
Je préfère les lettres. Je trouve ça incomparable. Parce que l'écriture manuscrite, quand on reçoit une lettre, l'écriture manuscrite, c'est tellement beau. Ça raconte tellement de choses sur les gens. Ça dit tellement de choses.
Le parfum,
tout.
Après, ça dépend du message.
Mais pour la vie de tous les jours, c'est quand même plus pratique.
Oui, mais même va te faire foutre, c'est intéressant comme lettre.
Non, puis ça se garde, ça se
oui,
ça se met de côté.
Moi, j'ai classé cet été des papiers de 35, 40 ans, 50 ans de l'école et tout ça. J'ai retrouvé des mots, mes premières lettres d'amour, les premiers mots d'amour que j'ai reçus dans ma vie. C'est bouleversant quand je lis un mail, à la limite... évidemment, le contenu est différent, mais il n'y a pas la peau, il n'y a pas presque la voix.
Que va-t-il se passer avec le nouveau téléphone ? Peut-être que l'iPhone 6 est déjà obsolète parce qu'on parle et on imagine ce que va être le futur smartphone dans les années qui viennent. Et
il
Jérôme Colombin, justement, on va demander à Jérôme Colombin, qui est un journaliste spécialisé, qui s'occupe des nouvelles technologies à France Info. Bonjour Jérôme.
Bonjour Magui.
Bonjour, on vous retrouve du lundi au vendredi à 6h55, 8h25, 10h55 et ainsi de suite sur France Info. C'est l'intelligence de France Info. Est-ce qu'on sait déjà dans, je ne sais pas, 5, 10 ans, est-ce que les téléphones qui vont débarquer vont être quoi, de plus en plus fins, de plus en plus performants ?
Ah oui, c'est ça, c'est sûr, c'est tout ça à la fois. On sait déjà sur quoi travaillent les industriels et des technologies qui sont pas encore tout à fait réalisables, mais que même nous, on aimerait bien voir arriver. Alors par exemple, le smartphone incassable, vous le faites tomber et il ne se brise pas, contrairement aux iPhones d'aujourd'hui. Un iPhone ou un smartphone d'une autre marque transparent, c'est joli. Et puis il y a des choses qui font rêver depuis déjà un certain nombre d'années.
Le vrai problème, Jérôme, c'est la batterie. C'est ça le vrai problème,
effectivement, pour l'utilisateur, c'est la batterie. Et on a un peu l'impression que les industriels s'en moquent parce qu'il n'y a pas beaucoup de progrès à ce niveau-là.
Mais il paraît qu'il y a une jeune femme qui a inventé un système pour recharger la batterie en 15 secondes.
Oui, il y a beaucoup de choses très intéressantes.
Elle a été primée, a eu même une bourse absolument pour financer ça. Mais apparemment, on peut imaginer, Jérôme, qu'il y a aussi d'autres intérêts en jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite inventer le téléphone qui n'a pas besoin d'être rechargé parce qu'il faut faire travailler les fabricants de batteries, il faut vendre des chargeurs différents, il faut vendre des choses en plus différentes.
Ouais, vous cassez le rêve.
Oui, bien sûr, il y a un peu de ça, mais il faut aussi que la technologie qui a été inventée, il y en a d'autres, il y a pas mal de trucs qui ont vu le jour récemment, mais il va falloir les faire passer à un stade industriel pour qu'à l'arrivée, le consommateur ne soit pas déçu.
Leïla, vous consommez, vous, les smartphones ? Vous en avez ? Vous êtes dessus en permanence ?
Oui, et j'ai des gros problèmes de batterie et je me dis toujours qu'on se moque de moi parce qu'on veut que je change tout de suite de téléphone, que j'en achète un nouveau. Mais moi, essayer de me convaincre, pourquoi est-ce que l'iPhone 6 pourrait m'intéresser ? C'est quoi les trois grosses nouveautés ?
Il paraît que lui, il est incassable, non ?
Jérôme ?
Non, alors il ne sera pas incassable, il devrait être inrayable avec un verre en saphir synthétique. Et puis il aura surtout un écran plus grand, et ça c'est une grosse demande du marché.
Et pourtant ça rentre moins bien dans les sacs, dans les poches de pantalon et ainsi de suite, si c'est trop grand.
Oui, mais juste si on reste dans les normes et dans le dans la
c'est quelques, même des poches, quelques centimètres. Quoi. Fin,
hein. Mais il y a des batteries maintenant qu'on des petites batteries portables.
Non, pour ça c'est comme un accu pour recharger le téléphone, mais il y a pas, on peut pas changer la batterie de son téléphone.
Non, mais je veux dire, on peut recharger la batterie du téléphone avec un petit machin qu'on a dans son sac. Moi, j'ai ça dans mon sac.
T'as remarqué que les piles ne rentraient pas dans ton téléphone.
Ah, Jérôme a pas fini. Il était,
excusez-moi, Jérôme.
Il y avait trois nouveautés, donc soi-disant un réel. On dit bien soi-disant, pardon, Jérôme, avec tout le respect que je vous dois, c'est que le suspense va durer jusqu'à 19h-19h30 ce soir.
Ah bah oui, ça c'est Apple, ouais. Hein, le secret, même si cette année on a l'impression que tout a fuité partout, il y a déjà des vidéos de l'hypothétique iPhone 6 qui sont en circulation sur Internet. Alors on a quand même déjà une sacrée idée de ce à quoi il va ressembler.
Vous disiez une batterie plus longue, un rayable, et quel est le troisième point fort ?
Alors l'écran, et puis peut-être le fameux accessoire connecté qui pourrait être une montre ou disons une espèce de produit mystère qu'on porterait au poignet et qui serait vraiment le prolongement du smartphone.
Produit mystère, ça s'appelle une montre.
Non, une gourmette. avec ton nom. Qu'est-ce que vous, qui êtes un spécialiste, quelle serait l'innovation la plus folle que vous pourriez souhaiter venant d'un téléphone, d'un smartphone ?
Il y a quelque chose qui fait vraiment fantasmer dès qu'on le voit, c'est les interfaces holographiques. C'est-à-dire que au lieu d'appuyer sur un écran que vous tenez dans votre main, eh bien vous avez des images qui sont projetées comme ça devant
dans
vous,
vide. Ouais.
Dans le vide, et puis vous les faites, vous savez, comme dans le film Minority Report.
On les fait défiler.
Exactement. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite, honnêtement.
Mais ça, au volant d'une voiture, j'adore, parce que tout le monde dit non, pas de téléphone au volant d'une voiture, et c'est super dangereux. Et le motard que je suis, je peux vous garantir que quand on va pour doubler une voiture et qu'on voit le monsieur ou la dame avec un téléphone à la main,
maintenant ils font des films en 3D,
c'est ça qui est super dangereux. Jérôme, j'imagine qu'à 19h vous êtes scotché devant votre ordinateur et votre Apple TV en train de suivre la conférence.
Oui, bien sûr, puisque c'est diffusé en vidéo sur le web, c'est un vrai show, vous savez, pour les pour les fans de high-tech, c'est la Coupe du Monde, hein, les keynotes.
c'est tous les ans.
Et ça va coûter une petite fortune, j'imagine.
Bon, 1000 euros.
Absolument.
1000 euros.
Une grosse fortune.
1000 euros. Pardon, pour un téléphone qui serait un peu moins. Enfin, voilà, pardon.
Oui, il serait moins, voilà.
Non, et puis on parle même d'un téléphone qui va pouvoir se plier, se rouler aussi.
C'est pour vraiment dans plusieurs années. Hein, je pense que c'est pas pour tout de suite.
C'est encore
ça
du
fait
fantasme.
Partie, effectivement, des choses qui commencent à exister. Il y a aussi quelque chose qui devrait arriver, je pense, un peu plus vite. C'est le téléphone hyper connecté, qui sera connecté à la maison, qui sera connecté à la voiture. Et qui sera connecté au corps humain avec des capteurs partout. Et ça, c'est pas de la science-fiction.
Absolument partout. Là. Il y en a qui ça va beaucoup plaire.
On va finalement savoir ce que c'est que le bégayement de partout.
C'est ça.
Ah, ça dit, moi. Oh, c'est bon.
Léla, rappelle-moi. Merci, Jérôme. Et on suivra le bilan de cette conférence. J'imagine que vous allez le faire sur France Info.
Dès demain matin, sur France Info.
Et on est fidèles. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne journée.
À quand le téléphone sextoy d'ailleurs.
Non, mais ça existe déjà.
Merci Michel, c'était la fin de l'interview.
Attends, Jérôme voulait répondre.
Non.
Ça existe, il y a des objets connectés.
Voilà.
Des sextoys connectés, et puis...
Merci Jérôme.
Oui. Oui, Pierre Lescure prend des notes.
Bonne journée, Jérôme.
Vous savez ce qui me fait peur maintenant, cette affaire d'informatique et machin.
On n'a pas de dire Jérôme, c'est Jérôme Colombin quand même.
Jérôme, bien sûr.
Non, vas-y, il y a un truc qui te fait fumer, c'est quoi ?
Non, c'est qu'il y a un monsieur cet été avec qui je parlais d'Internet et tout ça. Il m'explique que par recoupement, aujourd'hui, les agences de pub, les grosses agences de pub et tout ça, peuvent vous appeler demain matin, et te dire « Alors, c'était bien ton dîner hier à tel restaurant ?»
Ils savent qu'on y était.
À quelle heure et tout ça. Ils le savent, par recoupement. Ça fait peur.
Bah, la traçabilité de toute façon des téléphones, elle est obligatoire.
C'est dingue. Ça fait
même
vraiment
portable,
peur.
Même portable éteint, on peut savoir où tu étais.
Il y a même une histoire aux États-Unis absolument incroyable d'une agence de pub qui voulait faire une campagne.
Vas-y.
Bon, ils ont téléphoné, en gros, à un mec en lui disant « Il va falloir acheter des couches parce que votre fille est enceinte. »
Waouh.
Et le mec
ne savait pas.
Non, que sa fille était enceinte, elle a 18 ans, elle ne savait pas. Et effectivement... Elle était enceinte.
Mais le mec qui appelait, c'est peut-être le père.
Il a fait un procès. Ils sont allés trop loin, il a fait un procès, ça a fait un bordel aux États-Unis.
Waouh.
Mais c'est dangereux.
Il y a des limites à ne pas franchir.
On reste aux États-Unis.
Partons aux États-Unis, absolument, avec Leïla Kadour-Boudadi, la femme la mieux payée des États-Unis. Il y a une femme qui a un énorme salaire, qui fait partie des plus gros salaires des États-Unis.
C'est ça, dans un classement du New York Times.
Elle est dixième, c'est ça ?
Elle est. C'est une très bonne question, mince. C'est la première femme, et par rapport aux hommes, je vais retrouver ça. Oui, elle est dixième.
Dixième, 28 millions d'euros par an.
Par an.
Mais il y a un gros mais.
C'est quoi ?
Bah, le mais, c'est qu'en fait, cette Martine Rothblatt, en fait, était un homme.
Ah, bah tout va bien, alors.
Ça m'étonne.
Ah, dis donc, j'ai eu peur.
Ça m'étonne pas.
J'ai eu peur qu'une femme gagne plus que moi.
Elle est née Martin, en réalité. Elle ouais. était mariée et père de 4 enfants avant de passer sur la table d'opération en 94. Elle est donc devenue cette chef d'entreprise successful, beaucoup de succès, qui gagne énormément d'argent et qui rentre dans ce classement du New York Times. Et est devenue aussi une porte-parole du mouvement transgenre. Elle a même écrit en 95 une sorte de petit manifeste parce que c'est important de montrer à tous les autres transgenres qu'on peut être représenté. Enfin, c'est quand même un
ça,
mouvement
très,
très très important.
Ça c'est très bien, mais le truc qui est dingue, c'est que c'est toujours pas une femme qui est la
ah bah, c'est
parmi
une femme.
Les plus payées.
Maintenant c'est une femme.
Ah oui.
Ah,
oui,
non.
Ah bon.
Ah là, elle
ah,
était
bah,
dans,
oui.
elle était en fait elle
c'est
était
vrai.
Femme dans un corps d'homme.
C'est ça.
Donc en fait on peut pas remettre
en question.
Et ça c'est
une question application que vous avez sur smartphone, c'est quoi c'est...
Pardon.
Non, on va pas remettre en cause. D'accord, très bien.
Non, voilà. Alors, en effet, on peut faire la petite blague en disant, bah voilà, c'est toujours un homme. Et au moment où on milite pour l'égalité des salaires hommes-femmes,
c'est ce qui serait bien.
Ce qui serait très, très bien.
Ce serait génial.
Tu veux gagner moins ?
L'ironie de Daniel Morin. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle s'est toujours pensée comme une femme. Et in fine, elle est, c'est un super message d'espoir, hein, vraiment, pour toute cette communauté transgenre qui est très mal reconnue, dont les droits sont bafoués au quotidien.
Pierre Lescure ?
Non, j'ai regardé, j'ai copié sur vos notes tout à l'heure, Leïla, quand on s'asseyait, et je crois qu'il est toujours marié. Elle est toujours mariée.
Absolument.
Avec sa femme.
Avec Bina, sa femme, elle est restée. Voilà,
elle
est toujours en couple.
C'est quand même la famille qui haute poil.
Ça ne s'invente pas.
Elle s'appelle Bina, sa femme.
Mais voilà. Ça marche aussi dans l'autre sens. J'ai entendu dire que Pierre Lescure s'appelait Catherine. Moi.
Michel Bougenin est notre invité. Michel Bougenin qui a essuyé, on en reparlera tout à l'heure, un échec pour entrer à l'école.
Au Conservatoire national de Strasbourg.
Et justement, la question qu'on va vous poser au standard de France Inter, si un échec ou une leçon est devenu essentiel. Enfin, l'échec est devenu une leçon ou l'échec est devenu quelque chose d'essentiel dans votre vie, comme ça l'a été pour Michel Bougenin. Racontez-nous cet échec qui finalement a été positif au 01 45 24 7000. À suivre à 11h30 la bande originale de notre invité Michel Bougenin, à 11h45 le dico de Morin et à 11h55 le je n'oublierai jamais. Voici l'excellente Amy MacDonald. And the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair. While they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four. And you're waiting outside Jim's front door. But nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna go? C'est Amy McDonald, This is the Life sur France Inter.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Michel Boujna est notre invité, il est au théâtre Édouard VII avec Ma vie rêvée, ça sera à partir du 18 novembre jusqu'au mois de janvier 2015. La question, puisqu'il avait été refusé au conservatoire, la question est de savoir si jamais dans votre vie un échec est devenu une leçon positive, voire essentielle dans votre épanouissement. 01 45 24 7000, le standard de France Inter. Mais comme il est 11h30, on va jouer avec la bande, enfin jouer, on va écouter la bande originale de votre vie, mon cher Michel. En 1952, on pouvait entendre...
Garogori.
Que se passait-il, Leïla, en 52?
L'Assemblée nationale votait l'amnistie des faits de collaboration, sortie du film Jeux interdits de René Clément et bombardement de la Corée par les États-Unis.
Et le 2 novembre 52, et pas le 3 novembre, arrive le petit Michel Boujna.
Absolument.
C'est quoi ce jeu de date entre 3 et 2?
Parce que le 2, c'est la Toussaint, c'est la, le, on célèbre les morts. Alors ma mère, elle n'a pas voulu m'inscrire le jour des morts.
D'accord, c'est pas que de la superstition.
C'est, ah non, simple, c'est vraiment... ça l'a angoissé, quoi. Ça l'a angoissé.
Vraiment.
Ouais, ouais.
Donc, il n'y a que de la superstition. C'est ça.
Non, c'est pas de la superstition, c'est de la superstition.
En 1963, on entendait.
Pour moi, la vie va commencer.
Claude-François.
Et en 63, Martin Luther King.
Dommage, je voulais un peu l'écouter, mais c'est pas grave, t'as raison, vas-y.
Bah pardon, j'ai un peu boycotté Johnny Hallyday.
Mais non, faut pas, tu as tort, on ne touche pas l'idole.
Pardon.
Que se passait-il en 63?
Et bien, Martin Luther King prononçait son fameux I Have a Dream. Le premier hypermarché en France ouvrait dans l'Essonne. Et la maison de la radio était inaugurée.
Ça n'a pas bougé, ça n'a pas pris une ride, c'est ça qui est fort. 1963, Michel Boujna, vous vous installez avec vos parents, enfin du moins vos parents s'installent et donc vous les suivez,
oui,
à Bagneux.
Oui, et je ne suis pas content.
Et là et c'est un choc, c'est le paysage évidemment diffère de la Tunisie. Le
j'habite
soleil,
sur
le climat
la Nationale 20.
Ouais. Pas mal, c'est une des meilleures.
Oui,
très bien.
Et Pierre Lisquer s'y connaît en Nationale.
Je passe mon temps à compter les voitures en disant, bon, combien il y a de voitures rouges, combien il y a de voitures blanches.
Ce que fait tous les enfants.
Le nez collé à la vitre. C'est un enfer. Par contre, la seule chose formidable, c'est que mon père n'avait pas eu le droit de travailler pendant la première année. Pourtant, il était diplômé de la faculté de médecine de Paris.
Pourquoi il n'a pas eu le droit?
Pour des raisons politiques au départ, parce que mon père a été indépendantiste et communiste jusqu'à Budapest. Donc, il s'est battu pour l'indépendance en Tunisie. Et donc, il était fiché. Donc, ça a été un peu compliqué pour qu'il ait l'autorisation. Et alors, en Tunisie, moi...
C'était un mec extra, ton père. Mmh. Non, mais c'était un grand médecin.
Oui, oui, c'est un grand médecin.
Un mec extra.
Ouais. Je suis très
fier... C'est un coup de cœur de Pierre Lescure.
Spécialiste des... Non, mais c'était pas une vanne, surtout.
Non, mais je suis très fier que pour certains, je suis pas...
Le comique troupier qui fait le zouave sur scène, mais le fils de votre père.
Oui, je suis très fier d'être le fils de mon père. C'est parce bien, que c'est vraiment que c'était un type formidable.
C'est joli.
Et donc, à Tunis, je le voyais jamais, parce qu'il travaillait beaucoup. Donc, en fait, je tombais malade pour le voir. Comme ça, j'étais sûr qu'il
allait être soigné.
Ah ouais, mais j'ai inventé des maladies géniales. Hein. J'ai la typhoïde.
J'ai rendez-vous à papa, ça, la diphtérie, mais il va me faire atteindre.
Ouais. La typhoïde, c'est pas votre maladie. Frère, la typhoïde.
Comment?
C'est pas votre frère, la typhoïde.
Non, c'est moi. C'est ça, tout ça, c'est moi. Je
suis propriétaire. Mais il a corrigé les bios des gens en live.
Moi, je sais,
c'est
oui.
Pas
mais comme en plus, Michel, il a dit qu'il mentait sur plein de trucs, je me dis, je tente.
Mais même là, il ment.
Vous saurez jamais si c'est la vérité. Mais non, il y a une chose qui est vraie, c'est que il a fallu me changer le sang à un moment donné et il fallait me faire une piqûre tous les jours. C'était génial, ça. Parce que personne pouvait me faire la piqûre à part mon père. Donc, je le voyais tous les jours. Et alors, pendant un an, il n'avait pas le droit de travailler, il était à la maison. Et j'ai passé mon temps avec mon père.
Quelle chance.
Et ça a été un moment merveilleux, alors que lui était dans une souffrance absolue, parce qu'on n'avait pas de pognon. On était 6 dans 2 pièces. Bon, c'est des souffrances tout à fait ridicules par rapport à d'autres.
Vous dites qu'il y a deux souvenirs à Bagneux, c'était la neige et les ascenseurs. Alors, la neige, c'était une catastrophe. Mais
la neige, j'avais jamais vu. La première fois que j'ai vu la neige, j'ai dit c'est super. J'ai mis ma main dedans. Au bout de 5 minutes, j'avais les doigts qui pouvaient plus bouger. J'ai dit c'est de la merde. Cette histoire de neige. Maintenant, même quand je vois la neige au cinéma, je mets un anorak. Donc je supporte pas.
L'ascenseur, le feignant que vous êtes, c'est formidable.
J'avais jamais vu d'ascenseur de ma vie. J'avais un copain qui c'est drôle la vie d'ailleurs qui. Enfin, j'avais un copain qui habitait à Glacière, dans le 15e. J'avais appris
ça,
le
show. C'est pas une vanne, ça.
Non,
c'est un copain qui habitait à Glacière, c'est pas une vanne.
Après la neige.
Je te sers pas la main.
Mais il avait un ascenseur à mémoire. J'avais jamais vu, d'abord j'avais jamais vu d'ascenseur, mais pire, il était mieux, il était à mémoire. Ça veut dire, tu appuies sur le 2 et le 4, et ben il s'arrête d'abord au 2. C'est-à-dire, ouais, il sait l'ascenseur, il sait, il a retenu.
Il se fout de nous, quoi.
Qu'il faut s'arrêter au 2.
Ok. Il y a beaucoup d'ascenseurs qui font ça. Hein.
Non, mais à l'époque,
je comprends mieux
pas...
l'histoire de l'iPhone.
En 1970. Sex Machine, James Brown. Et que se passait-il en 70, Talita?
C'est la mort du président égyptien Nasser, c'est aussi la création du SMIC, et c'est aussi la réforme instituant l'autorité parentale partagée entre père et mère en remplacement de l'autorité paternelle uniquement.
Uniquement. Et en 70, donc Michel, vous voulez devenir acteur d'avant-garde, mais arrive ce concours à l'École nationale de Strasbourg. Vous étiez sûr et certain de l'avoir. Et lorsque vous arrivez sur le panneau d'affichage et que vous voyez que votre nom ne fait pas partie des 10 derniers, il ne restait pas grand monde. Sur 200 au début, vous étiez dans les 40.
On était 1800, 1800 puis 40.
40, vous 10. Étiez dans les 40 et après 10.
Ouais.
Ça, vous l'avez vécu. Alors, c'est un échec qui vous a évidemment, comme je l'ai dit en proposant à nos auditeurs de nous appeler, qui vous a motivé encore plus pour bosser, pour vous battre. Mais sur le moment, vous l'avez vécu comme une discrimination, comme une forme de racisme en disant j'avais l'accent.
J'en étais même pas là. J'étais juste. Je voulais me suicider. J'étais à la gare de Strasbourg.
Mais ça, c'est pas une vague. Vous étiez vraiment.
Non. J'étais à la gare de Strasbourg en larmes. J'avais deux bouteilles de coca. Et j'essayais de faire tenir la bouteille de coca du dessus par le goulot. Vous voyez, et je pleurais. Et il y a un type qui me voyait pleurer, qui est venu vers moi et qui m'a dit « Écoutez, jeune homme, ça tiendra jamais.
»
Et c'était tout à fait symbolique de ce que je venais de vivre.
Ça a tenu. Ça a tenu.
Oui,
et ça tient bien, puisqu'on se retrouve en 1985. Que se passe-t-il, Leïla, en 85?
L'épave du Titanic est retrouvée par Robert Ballard, Gorbatchev prend la tête de l'URSS et l'adoption cette année-là de la loi dépénalisant l'avortement en Espagne.
Mais il y a surtout en 85 Trois hommes et un couffin qui a été un vrai changement, que ce soit pour la reconnaissance de vos pères au monde dans le cinéma, parce que vous avez un César pour le film, mais un énorme succès populaire aussi.
Oui, c'est surtout le succès.
La vie a changé entre avant et après Trois hommes et un couffin.
Quand je tourne Trois hommes un couffin, je commençais à avoir du succès au théâtre, puisque ça faisait 2 ans que j'étais au Splendide et que c'était complet tout le temps, avec 2 spectacles différents. Le couffin arrive, et c'est comme si j'avais donc une mobilette qui marchait bien, ça commençait à fonctionner, je m'étais acheté ma première voiture, qui marchait, pas neuve, mais qui marchait. Vous voulez que je... Non, on n'a pas le temps.
Vas-y.
Vous voulez que je raconte pourquoi je l'ai acheté, la voiture?
Ouais.
Parce que je vais dans les garages, je cherche une voiture. Et donc, je visite la voiture, comme un appartement. Et le patron du garage, après, on part, et il appuie sur un bouton. Et la voiture, elle se ferme à distance. J'ai dit, qu'est-ce que vous venez de faire?
C'est l'ascenseur, le téléphone, la voiture qui se ferme.
Il me dit, qu'est-ce que vous venez de faire? Il me fait, j'ai fermé la voiture. Il me dit, arrêtez de déconner. J'ai dit, elle se ferme à distance? J'ai dit, ouais. J'ai passé une heure. Un mètre, deux mètres, trois mètres, quatre mètres. Pour savoir jusqu'où je pouvais aller. J'ai acheté la voiture que pour ça, pour la télécommande. Et après, dans la rue, je marchais, je faisais un kiff. Vous pouvez pas imaginer. Je marchais de loin, je faisais...
Michel Bouznat n'a toujours pas la télé en couleur à la maison.
Et Michel, moi j'ai un truc à vendre.
Mais moi j'ai vécu
Minitel,
l'invention,
un truc super.
Mais moi j'ai vécu l'invention de la télécommande. Vous pouvez comprendre ça.
Mais oui, mais
d'ailleurs 85, c'est pas la naissance de Canal.
84.
C'est 84.
Novembre 84.
Ouais. À ce moment-là, le succès du couffin, c'est comme si vous mettez de la nitroglycérine dans un Solex. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous avez l'estomac qui remonte au cerveau et vous partez à 250... Parce que c'était pas prévu. Quand Gérard Houry fait La Grande Vadrouille, il espère faire un grand succès populaire. Il a 2 grands acteurs populaires. C'est son rêve à ce moment-là. Quand ils font Les Visiteurs, ils rêvent de faire... Nous, quand on fait Le Couffin, si on se disait, si ça fait 250 000 entrées à Paris, maximum 1 million en France, c'est Hollywood pour nous. Donc, à part Roland Giraud, qui était absolument persuadé que le film serait un grand succès, on n'y pensait même pas. on faisait ce qu'on aimait avec Colline qui avait fait
c'est
des
le même genre de surprise que vous avez eu avec votre premier long métrage aussi avec
avec Père et Fils, mais bien sûr
avec Pascal Elbé, Philippe Noiret, Charles Berling,
bien sûr, mais c'est même la première chose quand j'ai fait mon tout premier one man show, je veux dire, j'avais jamais fait complet moi de ma vie, je savais même pas comment ça s'écrivait complet. Et tout d'un coup, je fais complet. Bon, c'était dans un théâtre de 100 places, mais c'était complet quand même. C'était complet, complet, complet. C'est-à-dire pas complet. Ça veut comme dire qu'il fallait un mois avant d'avoir une place.
Et c'est revenir magique. À France Inter pour l'émission de Nagui, vous attendiez à une telle bonne ambiance.
Comme quoi, il faut pas s'arrêter à un premier échec, au contraire, et redémarrer du bon pied et croire en soi. C'est justement la question qu'on vous a posée au Standard de France Inter.
France Inter. Intervenez.
Johanna, bonjour.
Oui, bonjour Nagui.
Bonjour. Quel a été l'échec ou le petit dérapage qui a été essentiel pour vous et une leçon positive?
Alors moi, mon échec, c'était mon redoublement en terminale.
Oui.
En fait, c'était assez terrible pour moi parce que pendant toute ma scolarité, j'étais avec le même groupe d'amis et là, du coup, je sortais tout le temps avec eux et en fait, c'était un peu la fin du monde. Et alors du coup, aujourd'hui avec le recul, je dois quand même dire que ce redoublement, il m'a un peu sauvée.
Dans
quel
sens ?
Parce qu'à l'époque, j'étais super, j'étais super influençable.
Par ce groupe ?
Dans ce groupe, voilà. Mais...
C'était les années drogue et les années alcool, c'est ça.
C'est ça. Ouais, et du coup, mes amis sont partis dans différentes filières.
En détox.
J'ai appris un peu qu'ils avaient mal fini, donc c'était pas plus mal pour moi.
Ah mais malheureusement, c'est pas une vanne, Johanna, ce que dit Morin.
Ah non, c'est pas du tout une
vanne. Johanna, la fille, je sais.
Non, mais c'est pas ça. Je croyais que Morin noircissait le tableau pour faire rire. Et malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que vos copains ont mal tourné ont eu des problèmes extrêmement graves.
J'étais extrêmement grave. En tout cas, ils étaient un petit peu drogués. Enfin,
d'accord.
Dans un groupe super.
D'accord. D'accord.
Voilà. Comment ils s'appelaient
et moi, à la place, du coup, je me suis retrouvée dans une super classe avec une super ambiance, super studieuse. Etc.
Exactement ce qui est arrivé à Michel Boujna aussi quand Michel, vous avez redoublé. C'était en sixième, non?
Ouais. Moi, j'ai vraiment pas eu de chance. Ma première année, c'était une horreur. Une horreur.
Non mais là c'est le côté positif comme elle, c'est-à-dire
ça m'a sauvé. De toutes les façons, il est clair que si on arrive à faire de ces échecs une force,
on apprend de ces échecs.
Ça nous donne une force incroyable. Ouais. Les échecs nous construisent, hélas, plus que les succès.
Johanna, j'espère depuis tout vous sourit, rassurez-moi.
Oui, tout va bien.
Parfait.
J'ai fait une super carrière.
Génial. Merci de votre appel, Johanna. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Ludovic a aussi une histoire à nous raconter. Bonjour Ludovic.
Bonjour Nagui.
Bienvenue sur Inter. Quel est l'échec qui a été positif pour vous?
Moi, en fait, j'ai fait des études hôtelières et plus particulièrement de pâtisserie. Donc, j'ai fait partie des ce qu'on appelait à l'époque les virtuoses de la pâtisserie.
Ouais.
Et donc, j'ai ouvert mon premier magasin à 22 ans.
Waouh, c'est
tôt,
ça.
En fait, je me suis aperçu que je n'étais absolument pas mûr ni préparé à ce qu'était la vie d'un chef d'entreprise. Mmh. Et je suis passé d'un virtuose à un véritable raté.
C'est-à-dire que la pression du chef d'entreprise était trop importante par rapport à votre plaisir de cuisiner ou de faire de la pâtisserie, et tout s'est effondré.
Je suis devenu quelqu'un de désagréable, autoritaire, que ce soit avec mes proches ou avec mes collaborateurs.
Et comment c'est devenu positif ensuite?
Alors, c'est devenu positif. J'ai eu un jour une mauvaise parole envers ma femme.
Ouais.
Et elle est partie. Et elle est partie une journée complète et elle m'a laissé me débrouiller. Et après, peu de temps après, la fermeture du premier magasin est arrivée. Et ça m'a fait prendre conscience que je n'avais pas le droit de traiter les gens comme je les traitais dans le travail. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait un revirement à 360 degrés.
À 360 degrés, vous êtes revenu dans l'autre sens.
À 180
degrés. 180, ça suffit.
J'ai complètement changé de...
De voix.
De façon de manager. Je retravaille encore avec les mêmes personnes parce que je suis allé les rechercher, je me suis excusé auprès d'eux.
C'est intelligent.
Et alors d'aujourd'hui, ils me font confiance et on travaille, on est une société, on a remonté une société qui se développe de plus en plus et qui maintenant va bientôt...
Alors là, c'est pas seulement merci aux échecs, mais c'est surtout merci à votre femme. C'est elle qui a eu l'intelligence de se comporter comme ça.
Aussi, ouais.
C'est bien, super. Merci Ludovic. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Non, mais c'est vrai qu'il faut toujours apprendre de ses échecs et surtout ne pas laisser tomber. Ça, c'est le point principal pour vous. Michel, vous n'avez jamais rien lâché.
Non, je ne suis pas le genre à lâcher. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que quand je sais, ben, tous les métiers, ça peut fonctionner. Il y a un moment donné où la nécessité de faire tel ou tel métier est tellement importante que vous n'avez pas choisi de le faire, ça vous a choisi. Mmh. Et donc, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous allez mourir. Donc, on ne peut pas vous arrêter. Même si vous vous plantez, on ne peut pas vous arrêter. Parce que c'est ou ça ou la mort.
Michel Boujna est au Théâtre Édouard VII du 18 novembre au 4 janvier 2015. Et ça s'appelle « Ma vie rêvée ». Et un jour, Michel Boujna sera, puisqu'il est 11h45 précisément, sera dans le Dico, mon cher Morin.
Absolument.
Et qu'à 11h45, c'est le Dico de Morin.
Et j'ai l'ensemble des infos qui concernent Michel Boujna. Michel Boujna voit le jour au soleil de Tunis en 1952. 11 ans plus tard, avec sa famille, il s'installe sous le soleil de Bagneux. Manque d'UV, carence en vitamine D, Michel Boujna déprime. Heureusement, il y a l'ascenseur. Comme beaucoup de grands dépressifs, il sera humoriste. La vie de Michel Boujna bascule le 9 septembre 2014 lorsqu'il est invité sur France Inter. Il est reçu par Nagui, habillé en tongs, porte-jartel et lunettes de soleil. Nagui qui lui dit « Ah, Michel Boujna, né à Tunis, un Égyptien comme moi !» Consterné, Michel Boujna se précipite vers Daniel Morin, l'humoriste préféré des ménagères nymphomanes de plus de 50 ans. Il lui dit « Mais il est fou ce Nagui, c'est n'importe quoi !» Oui, je sais, Tunis en Égypte, n'importe quoi. Non, ça, on s'en fout, on n'y peut rien, s'il connaît pas le Maroc. Son problème, c'est sa tenue vestimentaire, des portes-jartelles et des tongs. Quelle faute de goût! Avec les jartelles, on porte toujours des espadrilles, enfin! Daniel Morin ne sait plus quoi faire, alors pour calmer la situation, Pierre Lescure arrive et roule un énorme joint.
J'adore!
Complètement défoncé par l'herbe de Pierrot, Michel Boujna délire allongé entre Pierre et Daniel Morin, et c'est là qu'il a une illumination, une révélation. Il veut tourner trois hommes dans un couffin. L'histoire, c'est trois hommes siamois qui vivent dans un couffin géant et qui sont nourris au sein par un transsexuel toxicomane. Malheureusement, en 2015, le scénario tombe entre les mains de la police. En 2023, Michel Boujna sort de prison. À la sortie, belle surprise, Nagui l'attend avec un billet d'avion à la main et lui dit « Michel, tu viens avec moi chez Pierre Lescure. Il vient de lancer une plantation de cannabis à Ibiza. Allez, viens, tu vas voir, à cette époque, c'est magnifique le Sénégal. » 2024, on perd la trace de Michel Boujna.
Bravo. Au-delà des très bonnes vannes de Morin, il y a un point qui est vrai, celui de vouloir faire rire pour plaire aux autres. Ça, c'est quelque chose qui a été... Mais à l'école, ça marchait déjà.
Oui.
C'est de se dire, c'est comme ça que je vais plaire parce que je peux émouvoir ou faire rire les autres.
C'est pareil pour Daniel Morin. Hein.
Ouais.
C'est ça.
Mais oui, c'est sûr. C'est sûr que si... quand je rentre sur scène, c'est au premier rire.
C'est extraordinaire. Ouais, mais en ça, radio, c'est extra. Ouais, on l'entend.
Ça, c'est un soupir de... C'est un soupir de Tunisien. On se fatigue nous-mêmes.
Je m'auto-soule.
C'est pour ça qu'on a besoin de dormir beaucoup.
À 11h55, il y aura le « Je n'oublierai jamais » de Michel Boujna, qui est notre invité.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Sur France Inter, voici Peter. Tout prend son sens dans le miroir. Et notre invité, Michel Boujna, interprète Ma vie rêvée à partir du 18 novembre au théâtre Édouard VII et ce jusqu'au 4 janvier 2015. Il est là jusqu'à 12h30.
Le cerne noir comme le trou noir, sa vie est blanche pour le grand soir. Dans la maigreur, je me précise. Alors j'ai sens dans le miroir, c'est à l'envers que je me vois. Ce genou ivre est mon reflet, il me révèle tous mes secrets. Dans mon salon, les confettis, puisque l'enfant roi a grandi. Maintenant, prince.
Peter, ça donne vraiment l'impression que vous avez bien écouté la musique. Allez, vous, en fait, je dois expliquer, vous qui nous écoutez sur France Inter, ils ont ri au début du disque, mais après ils ont écouté le disque, ils rient à la fin. Sauf qu'à l'antenne, on a l'impression que vous avez ri tout le long du disque. Peter, à l'instant, tout prend son sens dans le miroir. Michel Boujna, sur scène donc, au théâtre Édouard VII, Ma vie rêvée. On parle de cette actualité à partir du 18 novembre, mais est-ce qu'il y a déjà des projections faites pour 2015-2016? Il y avait évidemment le festival de Ramatuelle, dont vous êtes le directeur, et vous avez fêté brillamment les 30 ans cette année, et vous avez même le t-shirt, c'est bien, c'est détournement de fonds, ça s'appelle, mettre un t-shirt de festival hors festival. Mais est-ce qu'il y a des plans que vous êtes obligé de faire un tout petit peu sur la comète, parce qu'on sait que ça prend du temps d'écrire un scénario, d'écrire un spectacle, de monter un film?
Ben, je travaille.
Parce que le troisième film est en route.
Oui, j'ai fini la 22e version de mon prochain film.
Avec Pascal Elbé encore?
Non, je travaille avec un garçon qui s'appelle Alfred Lott.
Enfin, vous travaillez avec quelqu'un de bien.
Oui. Non, Pascal, ne l'écoute pas. J'espère tourner l'été prochain. Pour l'instant, tout va bien. Le seul problème que j'ai, c'est que, effectivement, j'ai les deux héros du film, c'est deux enfants qui ont 12 ans et demi. Et il va falloir que je trouve cette petite fille et ce petit garçon. Et ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est assez compliqué. Il faut que la petite fille connaisse le violoncelle suffisamment pour pouvoir en jouer un petit peu. Après, on trichera. Et il faut aussi qu'elle apprenne à faire semblant qu'elle voit. Il y a des moments où elle voit, des moments où elle ne voit pas. Elle a une maladie... vous n'allez pas pleurer, c'est drôle. Hein.
J'aime bien la précision. C'est drôle, les gars.
Le ton
drôle, vous verrez, c'est une petite fille aveugle qui tombe en permanence, c'est très très drôle.
Elle est drôle, moi elle me touche beaucoup, ce personnage me touche beaucoup.
Vous avez déjà un titre de ce film?
Oui, il s'appelle Le cœur en braille ou L'amour est aveugle, on ne sait pas encore. Mais ça fait plus d'un an et demi que j'y travaille, j'adore cette histoire, elle me bouleverse. C'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant, ça parle du handicap.
Mais prends L'amour en braille, parce que L'amour est aveugle, c'était une émission de TF1 qui était un peu craspec quand même.
C'est vrai?
Ah oui.
Non, bon, alors je vais prendre Le cœur en braille.
Oui, c'est vrai qu'il y avait L'amour est aveugle, c'est une émission de télé. Ouais. Mm. Mais tu vois, on l'a oublié, cette émission de télé.
Mais, ça va, évidemment, on se projette dans les... À 2-3 ans, sinon on ne s'en sort pas.
Obligatoirement. Ouais. Obligatoirement.
Et puis, je suis très angoissé.
Et pour le festival de Ramatuelle
on a commencé déjà la programmation.
Déjà, un an avant, vous vous dites
qui va venir. Mais même l'année dernière, il y avait des spectacles que je ne pouvais pas avoir pour les 30 ans, que j'espère avoir l'année prochaine. Donc je les ai déjà. J'essaye de les bloquer.
Mais ça veut dire quoi? Que vous faites un travail de directeur artistique? Vous allez voir des pièces de théâtre, concerts?
Je vais voir tous les spectacles qui se jouent à Ramatuelle.
De programmateur, en fait. C'est ça.
Absolument. Et je vais voir le maximum de choses. Et après, j'essaye de construire quelque chose qui a du sens. Mais le travail, il se fait dans l'année, bien évidemment. Parce que pendant le festival, c'est très agréable et tout ça. Mais je fais potiche. Enfin, c'est pas très important ce que je fais pendant le festival. Tout a été fait avant.
Il y a un petit stand-up qui se fait
tous les soirs
pour présenter. Est-ce que c'est vrai que vous aviez refusé de prendre la relève de Jean-Claude Brialy à son décès?
Oui, quand Jacqueline Franjou, la présidente du festival, m'a appelé, j'ai dit non.
Pourquoi?
Parce que je ne me sentais pas assez fédérateur. Je me disais, Jean-Claude était dans tellement de milieux différents. Il connaissait tout, il était très éclectique. C'était à la fois un dandy, mais en même temps, c'était le contraire d'un dandy. Il était d'une culture incroyable, il connaissait tout le monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur apporter? Et tout le monde m'a engueulé en me disant, non, tu n'as pas le droit de refuser. Et j'ai dit, bon, on essaye un an, ça fait 8 ans, ça se passe bien. à mon grand étonnement.
Vous le faites très bien, même si c'est pas de la même manière que Jean-Claude Bouyali, ça c'est clair, mais chacun doit le faire à sa mesure.
Et
vous faites
très bien. Et surtout, la première année, j'ai essayé de... Parce que comme Jean-Claude était très élégant, j'ai essayé de bien m'habiller.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est une catastrophe.
Ça veut dire quoi, essayer de bien s'habiller? Ça veut dire
que j'ai vu cet été, il a arrêté.
J'ai mis un costume, une cravate et tout, je mourais de chaud sur scène, c'est au mois d'août. Je me disais, bon, je vais essayer d'être bien comme lui. Et j'étais ridicule. Donc maintenant, j'ai abandonné. Je suis mal habillé, tant pis.
On remet l'anorak de Bagneux, et voilà.
Ouais, exactement.
Il est 11h55 sur France Inter, presque 56. Dans la deuxième partie, il y aura Christophe Alévèque qui va revisiter les médias, Chris Esquer qui fera son interview originale. Évidemment, Richard Lornac, je vous dirai tout à l'heure pourquoi il est puni et il est dans le silence depuis le début de cette émission, parce qu'il a perdu un gage, il a perdu un pari avec moi. Oui, voilà. Mais par contre, tu peux commencer à jouer puisque c'est l'heure du « Je n'oublierai jamais ». Je vais commencer toutes mes phrases, mon cher Michel, par « Je n'oublierai jamais », à vous de les compléter. « Je n'oublierai jamais dans ma chambre d'enfant ».
Ma raquette de tennis.
Ah, le tennis tout petit déjà, alors vous jouez?
Ah oui, bien sûr. Je dormais avec ma raquette de tennis, une raquette que j'avais gagnée, parce que j'avais gagné un tournoi, et je dormais avec, c'était une Spalding.
Je n'oublierai jamais ma première histoire d'amour.
Mini. Comme la femme de Mickey, tout le monde l'appelait Mini. Mini Chemla. Elle fabrique des sacs aujourd'hui au Maroc.
C'est à elle que vous aviez écrit un petit mot en disant je veux te voir... Je veux te dévêtir ou je veux te voir nu. Ouais.
Ah non, ça c'est plus tard. Non, là ça c'est plus tard. Mon premier vrai amour, j'avais 8 ans.
D'accord. Ouais. Je n'oublierai jamais ma première cuite.
Non, ça je peux pas oublier. C'était avec Jean-Paul Belmondo à Montréal. Il tournait Hold Up, c'était le 14 juillet.
Ouais, c'est une cuite hyper classe.
Oui, hyper classe, mais hyper cuite. Hein.
Cramé tellement. Ah, oh,
j'ai fini en coma éthylique, hein. J'étais en caleçon sur les épaules de Belmondo, qui était lui aussi en caleçon,
rappelons-le, voilà.
À 8h du matin à Montréal. Il a très vite compris que je tenais pas l'alcool et ça l'a beaucoup amusé.
Ça c'était la première cuite de Michel Boujenah. La dernière cuite de Morin, c'était donc ce matin, vous l'avez compris, parce qu'il est arrivé avec 10 minutes de retard. Je n'oublierai jamais ma peur de...
Ma peur d'aller à l'école en France, la première fois que je suis rentré dans cette école de Cachan où tout était différent. En plus, bon, ça
s'est... Y compris avec des insultes.
Ah, bah oui, un matin je me faisais traiter de ouais. Sale juif et le lendemain matin de sale arabe. Ah. Oui, parce qu'à l'époque ils faisaient pas la différence.
Mais ça reste,
bien changé. Hein.
Ça reste antisémite. Antisémite, c'est aussi un juif
arabe.
Mais
bien sûr. Ouais, mais de toute façon, je suis un juif arabe.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, à ce propos, quelle est l'histoire la plus belle et la plus courte du monde?
Ah bah, c'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe.
Elle est très belle, ça. Elle est très, très belle. Surtout en ce moment.
Ben oui.
Je n'oublierai jamais ma honte.
J'ai volé dans la poche de mon père.
Oulala.
Parce que comme mon père était médecin, il avait tout le temps de l'argent liquide dans la poche. Et je voulais absolument m'acheter des chaussures pour plaire à une fille. J'avais 14 ans.
Et vous êtes fait attraper?
Et je vous rappelle que je parlais comme ça. Et non, je me suis pas fait attraper, mais quand j'ai acheté les chaussures, j'avais honte. Quand j'ai volé, j'avais honte. Les chaussures, j'ai jamais pu les mettre chez mes parents. Donc elles étaient chez un copain. Elles étaient horribles. Et je les ai pratiquement jamais mises.
Et t'as gardé la monnaie?
J'ai gardé la monnaie, bien sûr. Bien sûr que j'ai gardé la monnaie.
Je n'oublierai jamais ma rencontre avec... S'il y avait une rencontre.
Il soupire.
Avec Raymond Devos.
Oh. Ah, je m'attendais à Charlie Chaplin, moi.
Ah oui, c'est vrai.
Mais bon,
à la Cinémathèque française, ouais. Oui, je faisais partie, parce que j'étais un rat de la Cinémathèque. À l'époque, c'était 1 franc 1 centime le billet. Et on y allait tout le temps, on séchait les cours, on y allait tout le temps. Et un jour, Chaplin a été invité par Langlois. Et nous, les rats de la Cinémathèque, on faisait partie du service d'ordre. Donc on était comme ça devant les gens qui voulaient voir Chaplin, mais nous on était au premier rang. Et moi évidemment complètement fasciné, parce que cet homme a changé véritablement ma vie. À 12-13 ans, il a bouleversé ma vie. Je l'ai pris par le bras, parce que c'était un vieux monsieur déjà, en disant je vous accompagne. Il n'avait pas besoin de moi.
La classe. Michel Boujenah est notre invité et c'est sur France Inter. Vous êtes bien sur France Inter, il est midi. Les Laetitia Gaillet pour les infos.
Les parlementaires font leur rentrée aujourd'hui et logiquement sur les bancs de l'Assemblée nationale, on devrait retrouver Thomas Thévenoud, l'éphémère secrétaire d'État au commerce extérieur, qui a refusé de démissionner de son mandat de député. Il a juste accepté hier de quitter le Parti Socialiste, une décision critiquée à droite comme à gauche, mais qui, selon le Front National, permet aussi au gouvernement de garder une voix dans la majorité, car il en faudra la semaine prochaine pour que Manuel Valls obtienne la confiance du Parlement. Les députés socialistes dits frondeurs ne voteront pas contre le Premier ministre, mais ils s'orientent vers une décision qui ne réjouira pas pour autant le chef du gouvernement. Les explications de l'un d'eux, Christian Paul.
Nous nous orientons vers une abstention collective et nous pensons qu'il n'est pas possible d'imposer au groupe socialiste une unanimité de façade en raison de l'impasse économique et politique dans laquelle on se trouve. La meilleure façon de sortir de l'impasse, c'est de changer de politique. Il y a des alternatives, c'est ce que nous allons dire dans les jours qui viennent au Premier ministre et au gouvernement. Et le sens de notre abstention, si en définitive c'est la position que nous retenons, c'est vraiment de demander un changement de politique, de mettre en garde le gouvernement sur les dangers de la politique qu'il mène, danger pour notre économie qui a besoin d'un plan d'urgence, danger aussi, c'est vrai, pour la gauche si on ne revient pas aux engagements de 2012 qui sont ceux qui ont permis l'élection de François Hollande et aussi d'une majorité à l'Assemblée.
Christian Paul répondait à Marion Lagardère. L'affaire Thévenoud et le reste, on va en reparler tout à l'heure à 13h, au menu également du journal de Claire Servageant. On parlait à l'instant de la rentrée parlementaire, et bien les députés vont devoir plancher cet après-midi sur le premier volet de la réforme de la dépendance, celui qui concerne l'adaptation de la société au vieillissement de la population. Pour en parler, Claire Servageant recevra Serge Guérin, sociologue, auteur de nombreux ouvrages sur la question des seniors et du vieillissement. À 13h, on parlera aussi du premier rapport sur le crash de l'avion de la Malaysia Airlines cet été dans l'est de l'Ukraine. Les conclusions accréditent la thèse de tir de missiles. Des projectiles ont pénétré à grande vitesse l'appareil qui a été disloqué en plein vol. La Blue Car de Bolloré sera bientôt produite en partie par l'usine Renault de Dieppe, c'est officiel depuis ce matin. Un procès pas comme les autres au tribunal correctionnel de Rodez cet après-midi, celui d'une communauté Facebook d'une quinzaine de personnes. Elle donnait la géolocalisation des radars en Aveyron. Et puis on s'intéressera aussi à 13h au rapport de l'OCDE sur l'enseignement supérieur, rendu public aujourd'hui. La France reste un pays attractif pour les étudiants étrangers, malgré les efforts d'investissement dans le supérieur. Les frais d'inscription restent modérés. Nathalie Nougaret quitte Le Monde, l'ancienne directrice du quotidien, rejoint The Guardian, on l'apprend aujourd'hui. Elle officiera là-bas en tant qu'éditorialiste sur les questions internationales. Les vendanges dans la Marne et le Beaujolais ont officiellement commencé hier, mais c'est aujourd'hui que les équipes sont formées et vont donc couper leur première grappe, si ce n'est déjà fait. Faire les vendanges est un travail dur physiquement, mais conséquence de la crise, les candidats sont toujours aussi nombreux et ils viennent de loin pour travailler. Reportage dans le Beaujolais de Christophe Vincent.
Devant les gares SNCF de Belleville ou Villefranche, des tentes, chômeurs, saisonniers, étudiants attendent les offres au bungalow Pôle emploi dès l'aube.
3h30 du matin, et là j'attends un coup de fil pour pouvoir travailler. Ça fait une semaine que nous sommes là.
Je sais bien que ça va être très rude physiquement, donc là je suis prêt à le faire, donc j'ai décidé de me lancer.
Viticulteur à Brouilly, Alain Ravier attend au train ses vendangeurs déjà recrutés.
Je n'ai pas du tout de profil particulier, dès l'instant où ils sont courageux. J'essaye de diversifier mon équipe en prenant des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des étrangers aussi. Je suis prêt à tout dès l'instant où ils ont du courage.
Cette année, Roumains et Bulgares s'ajoutent aux habitués, Tchèques, Slovènes, Estoniens. Elias, un Italien, est amer.
Un viticulteur, depuis 20 ans, je viens chez lui. Il m'a dit, excuse-moi Elias, cette année, je ne peux pas t'embaucher. J'ai une équipe polonaise. Il m'a dit, je leur donne seulement les logements. Eux, ils se demeurent, ils viennent avec leur bouffe. Je leur paye en hectare. Et c'est la première fois. Il m'a dit, on va voir ce que ça va donner.
À Belleville-sur-Saône, Christophe Vincent, France Inter.
Et vous écoutez France Inter, il est presque 12h05. Allez, c'est reparti pour un tour, la suite et la fin de la bande originale avec Nagui et toute la bande.
Merci Laetitia Gaillet, d'autres infos sur Inter à 13h bien sûr. Et toute la bande, c'est Leïla Kadour, Boudadi, c'est Pierre Lescure, Daniel Morin, Christophe Lévesque qui nous a rejoint pour parler aussi de médias en fin d'émission. Et notre invité est, messieurs, dames, Michel Boujenah. Ouais. Chris Esquer interviendra dans quelques petites secondes, mais d'abord, je rappelle Ma vie rêvée est au théâtre Édouard VII du 18 novembre au 4 janvier de l'année prochaine. On n'avait pas eu le temps juste avant les infos, mais on aimerait tous savoir quelle a été cette rencontre avec Raymond Devos qu'il fallait retenir et qui était peut-être même plus importante que celle avec Charlie Chaplin dans un premier temps.
Chaplin, il a été important sans le savoir, puisque j'avais 11 ans quand j'ai vu Les Feux de la Rampe la première fois. Mais Raymond, je suis place de l'Alma, je traverse, il est de l'autre côté, il traverse, il me voit, il fait « Ah !» Je suis tellement content, on va manger. Il était midi et demi, une heure d'après-midi.
Totalement improvisé, impromptu, pas prévu.
On est resté au restaurant jusqu'à 18h. En fait, je savais qu'il était venu voir mes spectacles, mais...
Sans jamais vous parler après.
Non, jamais. Et on est resté jusqu'à 18h. On a parlé, on a improvisé, c'était merveilleux. On ne s'est jamais quitté, jusqu'à la fin. Non, c'était magnifique. Devos et Bedos, bizarrement, ça a été des rencontres formidables, importantes. Parce que Devos, c'était le premier à m'avoir... Il m'a montré qu'on pouvait faire rire, qu'on pouvait être populaire, sans parler de cul et sans parler de politique. Et sans se moquer des autres. Ça réduit beaucoup le champ.
Et ça a été une leçon.
Ah bah oui. Je me disais, attends, donc ce qui limite un individu, c'est pas ni ses origines, ni son accent, ni c'est son talent. Donc si j'en ai un petit peu... Parce que moi, j'ai jamais vraiment été un humoriste politique, je parle pas beaucoup de cul... Dans le spectacle, là, je parle un tout petit peu de sexe, mais d'une manière très particulière.
C'est ce qui a plu, justement, chez Chris Esquer, qui avait absolument envie de vous rencontrer et de vous poser plein de questions.
Oui, alors, effectivement, je reprends le dossier en l'état. Michel, merci, Nagui, à demain. Michel Bougenat, vous étiez venu l'année dernière dans « Où va tout s'y passer ?». Vous étiez aussi venu l'année d'avant, et encore celle d'avant. Et l'année dernière, vous avez quitté l'émission en me faisant cette promesse peu aimable.
Mais ne t'inquiète pas, juste avant ma mort, j'irai à ton enterrement.
Des rires forcés qui cachaient mal une inimitié manifeste. J'espère que ça va mieux se passer aujourd'hui. J'avais trouvé cette pique extrêmement peu confraternelle. Et aujourd'hui, je suis vivant et bien vivant, Michel Bougenat.
Mais alors, peut-être pas pour longtemps, on ne sait pas.
Ouais, on va voir. Alors avant midi, vous avez fait cette déclaration aussi qui a intrigué les auditeurs.
Comme mon père était médecin, il avait tout le temps de l'argent liquide dans la poche.
Il n'était pas conventionné.
C'était au black.
Oui. Non, mais non, ils vont pas venir maintenant. Hein.
Il y a pas de prescription, vous savez. Ça va ?
Ouais, bon. Oui, ça va.
Alors, je vois sur le dossier que votre spectacle démarre le 18 novembre. Vous venez faire votre promo le 9 septembre. Allez, soyez honnête, il n'est pas encore écrit, ce spectacle.
Non, pas du tout. Non. Tout ce que je raconte, je l'invente sur le moment.
Autre, j'ai le dossier de presse sous le nez. Je vois sur l'affiche que c'est un spectacle européen. Qu'est-ce que ça implique sur le contenu ?
Si vous saviez. Je ne peux pas vous dire, c'est confidentiel.
On a les idées larges à France Inter, hein. Vous voyez, on parle de votre spectacle.
Oui, mais je ne peux pas vous dire.
Ah oui, c'est confidentiel.
C'est terrible.
Il y a des obligations de...
C'est horrible.
De placement,
Oui, et puis je dois parler des animateurs dans le spectacle.
Ah oui.
Je dois faire de la publicité tout le temps. Ouais. Toutes les deux minutes, je suis obligé.
Ouais, d'accord. Très bien. Je vois aussi collaboration artistique, Paul Bougenat et Janine Bougenat. Le chat a participé aussi.
Oui. Janine Bougenat, c'est ma mère.
Ah ouais, ouais. Toute la famille vous a aidé là.
J'ai une manière de lui rendre hommage, ouais. que de partager avec elle ça. Elle a 90 ans et elle a été quand même une grande source d'inspiration dans ma vie, donc c'était que justice.
Ouais. Très bien, allez, on est en direct, il est 15h30 et c'est l'heure d'écouter Daniel Morin.
France Inter. La bande originale.
Aujourd'hui, 9 septembre, c'est la journée mondiale de la paix. Alors, vais-je en profiter pour ne pas râler, pour être de bonne composition ?
Oh, ça m'étonnerait.
Vais-je m'habiller comme Pierre Lescure, qui ce matin, pour célébrer la paix, est venu pieds nus, vêtu d'un pagne, d'un bandeau dans les cheveux, en fumant un énorme joint ?
Encore ?
Oh, putain !
Non, jamais de la vie ! Plutôt crever, je déteste la paix. Moi, je suis pour la création d'une journée mondiale de la guerre. Une journée de promo de... Tous les conflits seraient mis à l'honneur, toutes les horreurs. Une grande journée comme ça où les gens se rassembleraient dans la rue pour se mettre sur la gueule. Tant qu'on y en met en place le prix Nobel de la guerre. Chaque année, tu récompenses un salaud dont le travail pour ruiner la bonne entente entre deux pays a provoqué un conflit. Voilà. Et le prix Nobel de la guerre 2014 est décerné à... Pour la 5e année consécutive, Vladimir Poutine. Bravo. Un mot, Vladimir. C'est possible. Merci, merci beaucoup. Cette année, vous avez aimé mon travail en Ukraine. Je peux vous garantir que vous allez adorer l'année prochaine. J'ai grand projet d'invasion de la totalité de l'Europe. Toute l'Europe, sauf la France. Pourquoi pas la France, Vladimir? J'ai peur de Manuel Valls. N'empêche, c'est vrai qu'il faut un peu les chocottes, Manu. Depuis qu'il a décapité Montebourg, personne ne bronche. Personne sauf Martine Aubry. Martine qui, hier, a déclaré « Manuel, faut pas se crisper oh !» J'ose à peine imaginer la réaction du matador de Matignon. Le pauvre gars qui s'est pointé pour donner la nouvelle à Valls, il a dû avoir la trouille de sa vie. Monsieur le Premier ministre...
Quoi ?
Martine Aubry a fait une déclaration vous concernant.
Qu'est-ce qu'elle a dit, cette gourde ?
Elle a dit... Manuel, faut pas se crisper.
Quoi ?
Elle a dit, Manuel, faut pas se crisper.
C'est bon, ça.
C'est là, monsieur le Premier ministre.
Ta gueule ! Allez me la chercher tout de suite que je la bute ! Ah ça, il est sanguin, il est sanguin, il est sanguin. Manu, il est comme ça, il faut s'y faire. Il est sanguin, mais c'est pas un escroc. Pas un escroc comme certains qui, même gaulés, quittent le PS, mais veulent rester députés. Thomas Thévenoud. Oh là là, quel cador ! Il a peur de rien, le sagouin. 3 ans sans payer les impôts, il se fait choper, il déclare « L'enchaînement de négligence qui m'a placé dans cette situation ne fait pas de moi un fraudeur. » Eh ben bravo, moi aussi, j'allais faire mes courses, je vais partir sans payer, si je me fais gauler, je vais faire comme toi Thomas, je vais dire « Oh mon Dieu, nom de Dieu, quelle négligence de ma part, j'ai oublié de passer par la caisse. » Est-ce que je peux être négligent, moi, des fois ? Et le gars se démonte pas, hein. Il dit « J'ai tout payé, plus les pénalités. » Tu veux une médaille, Toto ? Tu veux la Légion d'honneur pour te rappeler que t'en as pas ? Oh, allez, merde, bonne nouvelle, maintenant on part en Angleterre. En Angleterre où une femme vit un drame. Vous avez entendu la nouvelle ? Kate Middleton est à nouveau enceinte.
Encore ?
Pas une minute de répit, la pauvre ! À peine sortie des couches du premier, bam ! William, il lui saute dessus, il la féconde. Il doit la guetter tout nu dans les couloirs de Buckingham toute la journée et la nuit aussi, c'est un cauchemar pour elle, j'imagine. Cathy,
oh
Cathy, 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 Cathy.
Oh non, oh, not again, not again, go away.
Pas maintenant, pas maintenant.
Ah oui, c'est. J'ai l'impression que c'est du vécu. C'est du vécu. Enfin, c'est pas un prince, hein, c'est un étalon. L'année prochaine, on va le retrouver au salon de l'agriculture, à poil, à quatre pattes, au milieu des taureaux charentais. Allez, God Save the Queen. À demain, les amis.
Michel Bougenave, en parlant de votre existence, vous dites « Je suis très en retard sur le planning que je me suis fixé. J'ai besoin de temps, je ne veux pas que tout s'arrête maintenant. » Vous n'auriez pas peur de la mort quand même ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout angoissé par l'âge que j'ai, par exemple. J'en parle que 50 fois par jour.
C'est vrai, c'est raisonnable. Vous êtes croyant ?
Pas du tout. Je crois dans les situations compliquées. C'est-à-dire, avant de rentrer en scène le jour d'une première, je regarde le ciel et je dis,
si t'es là,
je crois pas que t'existes, mais si jamais je me suis gouré...
Puis s'il m'arrivait un truc, je te donne une chance.
Hier, on recevait Bernard-Henri Lévy et je lui ai demandé à la fin quelles sont les choses à faire, restant à faire de son vivant. Il m'a dit l'essentiel. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous répondriez ?
Ah non, pas... Non, j'ai encore plein de trucs à faire, c'est tout. Je suis un peu en retard sur ce que
quoi,
j'ai pris comme note.
Vous avez envie de faire quoi ?
Je veux faire un film sur l'histoire de deux frères, je veux faire un film sur l'histoire de ma communauté, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je voudrais jouer une fois avant de mourir le roi Lear. Voilà, il y a plein de choses que j'aimerais faire et que je ne ferai pas.
Ouais.
Mais qu'importe, ce qui est intéressant, bouleversant, rigolo... C'est d'imaginer qu'on va faire plein de trucs et qu'on ne les a pas encore faits. Parce que si on se dit...
C'est moins fatigant, sinon.
Absolument. De toutes les façons, je suis d'une fainéantise que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors,
ouais.
J'adore pêcher, vous savez pourquoi ? Tu mets ta canne de traîne, t'avances dans la mer et tu fous rien. Et tu fais qu'une chose, c'est espérer qu'un jour il y a un poisson que tu l'attrapes. C'est tout. Ou que lui décide que tu l'attrapes. Parce
là,
que
y
c'est
à mon avis. Il y a les poissons qui vous regardent et qui disent aux autres, ah, c'est bon, c'est Bougenave, bougez pas les gars.
Ah bah, de toutes les façons, vous voulez que je vous dise ?
Ouais.
Ça fait 7 ans que je pêche sur un bateau sur lequel je suis souvent. J'ai fait Nice-Calvi-Calvi-Nice
c'est sur mon bateau, c'est 13 heures de navigation. Je l'ai fait 35 fois. J'ai jamais attrapé un poisson. D'accord. Donc ce que vous dites est vrai. Si vous les connaissez les poissons, je vous en supplie, dites-leur. Bon, qu'il y en ait un une fois.
Qui se dévoue.
Les... Oui, parce qu'ils vont, se faire pêcher par les autres. Pourquoi pas moi?
Si vous avez un bateau, c'est-à-dire vous êtes assez riche quand même alors.
Oh non, parce que si vous voyez mon bateau...
C'est un optimiste ?
Non, mais tout le monde dit qu'il va couler tout le temps.
Ah bon, merde, c'est pas
On se demande d'ailleurs pourquoi il coule pas. Non, non.
Ah, vous aimez pas trop que seule la réussite soit valorisée aujourd'hui ? C'est-à-dire que si votre spectacle était un échec, ce serait une forme de consécration ?
Non, j'aimerais pas. Non, mais vous savez, ce que je supporte pas dans les journaux, c'est quand il y a top 10, flop 10, machin, toutes ces conneries. Je veux dire que la seule valeur reconnue aujourd'hui, c'est le succès. Non, moi j'ai vu des films magnifiques qui ont pas marché. Par exemple, un film qui s'appelle Funny Bones, drôle jusque dans les os. Si on traduit, c'est pour moi un film culte. Il y a très peu de gens qui l'ont vu. Fisher King, puisque Robin Williams vient de nous quitter, film de Terry Gilliam, c'est pas un succès mondial, et pourtant, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, et je supporte pas cette espèce de discours qui dit « Ah, mais ça a marché, donc c'est bien ». Non, des fois, il y a des trucs qui marchent et de la merde.
Oui. Super, et ben maintenant...
J'étais trop long, c'est ça?
Non, là, pour l'instant, ça va. Ça va.
Et, oui, non, je tiens à préciser, qui c'est le patron de cette boîte?
C'est moi.
Il me pince.
C'est comme ça, c'est une nouvelle technique. Maintenant, on va écouter quelqu'un qui a enchaîné bide sur bide aussi, c'est Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Mais nous, on reste.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que sonne l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis, à présent que ce n'est l'heureux. Des adieux à jamais, je suis heureux. Tu te dis que je m'en vais, oui je t'aimais, oui mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent, personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
toujours et vous êtes toujours dans la bande originale sur France Inter avec Leïla Kadour Boudadi, Pierre Lescure, Daniel Morin, Christophe Lévesque, Richard Lornac. Et on reçoit Michel Boujna qui nous parle de son spectacle qui va jouer dans 5 ans. Mais il est midi 21 et à midi 21, c'est le moment média de Christophe Lévesque.
France Inter. Merci, merci. La bande originale.
Alors, j'ai fait une expérience quasi scientifique. J'ai regardé 3 heures de suite les chaînes d'infos continues. Là, je suis sous anxiolytique. Mais ça va mieux. Si t'as le moral dans les godasses, il est déconseillé d'écouter ça 3 heures. Si t'as un balcon, tu sautes. Ou c'est le gaz. Alors, profitez-en, il va augmenter. Ça, c'est la première info. Quand tu regardes les chaînes d'infos continues, c'est le seul moment où tu es content que les pubs arrivent. Alors, synthèse, c'est parti. D'entrée, on a ça.
Je vais faire 5 fois Mera au défilé du 14 juillet.
Voilà. Alors, bon, la menace terroriste qui revient, comme par hasard, quand tout merde. Voilà, info qui repasse en boucle. Donc, tu l'entends 4, 5, 6, 7 fois. Du coup, tu as l'impression qu'ils sont très nombreux. Et en même temps, sur les chaînes info, tu as, je sais pas, vous avez remarqué, il y a une bande en dessous.
Un bandeau déroulant.
Un bandeau déroulant en bas de l'écran qui donne une autre info, mais complètement décarrée par rapport à l'image. Alors là, tu avais menace terroriste, donc, et le bandeau en dessous, un policier belge se noie en sauvant un cygne. Voilà. Et je ne sais toujours pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Voilà. Ensuite, sans transition, on a ça.
Elle faisait son jogging à proximité de cette allée. Soudain, un homme s'approche d'elle et lui donne 7 coups de couteau de boucher.
Non, pardon. Prends ça, voilà. Faites du sport. Voilà. Et le bandeau qui va bien avec, en dessous, le niveau de vie des Français a baissé de 1% en 2012, le chômage est en hausse. Voilà, et bien donc, faites du jogging. Voilà. Alors après le terrorisme, la menace, Front National, l'épouvantail à con classique, discours de Marine Le Pen chez les jeunes fascistes décomplestés à Fréjus.
Les experts, c'est le peuple.
La truffe! Et pendant tout son discours, elle dégoulinait tellement de populisme qu'elle avait une flaque au pied. Ou alors, elle était très excitée. Le petit bandeau qui va bien, en dessous, bandeau déroulant, un ado annonce sa mort sur Facebook avant de se pendre avec le câble de son ordinateur. Ce qui, à l'époque du Wi-Fi, est très con. Voilà. Alors, c'est pas fini. Ensuite, nous avons l'affaire Thomas Thévenoud. Suite, le fraudeur du Trésor quitte le Parti Socialiste, mais garde son mandat de député. Alors, nous avons la déclaration de Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, direct de la Gay Pride élyséenne.
Ça me reste à travers la gorge.
Eh ben, bois un coup, pépère. Ah, le bal des faux culs. Alors, je vous explique. Si Thévenoud n'est plus député, les socialistes n'ont plus la majorité absolue au Parlement. À une voix près. Ils sont donc obligés d'accepter un truand. Oui, mais il n'est plus au PS. Franchement, ça ne s'invente pas. Je vous dis qu'il y a un scénariste qui écrit. Tout ça suivi d'un débat, évidemment, sur l'éthique. Blablabla, bla bla, je vous le résume. Éthique, 2 qui la tiennent, 3 qui la niquent. Le bandeau qui va bien en dessous, pendant le débat, complètement ivre, il prend sa femme en contresens.
Non.
Ou l'autoroute, je ne me rappelle plus. Alors, ensuite, heureusement, pub. Et là, on respire. On voit une blonde à moitié à poil qui se touche avec un flacon de Chalimar. Mais comme t'es totalement perturbé par l'info, t'as l'impression que c'est une prostituée ukrainienne dans un film de boules produit par Poutine. Retour à l'info. Ping.
Le virus Ebola est-il devenu hors de contrôle ?
Dans ta gueule ! Suivi de...
Le journaliste américain James Foley est à genoux à côté d'un homme masqué de l'État islamique. Quelques minutes plus tard... Il est décapité.
Ça va, vous ? Et le bandeau qui va bien avec, déroulant en dessous, un septuagénaire soupçonné de viol sur ses petits-enfants. Chez qui on va mercredi ? Chez papy ! Qu'est-ce qu'on emmène ? Des capotes ! C'est pas fini, info suivante. Ah, bonne nouvelle ! Kate enceinte d'un deuxième enfant, mais elle est malade, elle est à l'hôpital, elle a des nausées. Même ça, ça merde. Et le bandeau qui va bien en dessous, retour de Sarkozy, une question de jour. On sait maintenant pourquoi elle vomit.
C'est pas fini. En Libye, c'est le chaos. En Irak, bientôt la guerre. En Syrie, bientôt 200 000 morts. Olé ! Si tu fais l'addition, on est menacé par des guerres, le terrorisme, la montée du Front National, un couteau quand on court, une classe politique pourrie, un virus, des nausées quand t'es enceinte, le pouvoir d'achat qui baisse, la décapitation de journalistes, Sarko qui va revenir, et le chômage. Tout ça en 3 heures. Raison de plus pour chanter tous ensemble. Ça ira mieux demain, plus fort. Ça ira mieux demain, comme tout finira bien. Il faut profiter du jour qui vient. Soin, soin.
Bravo.
Au Bataclan le 6 octobre. Pierre Lescure, Leïla, une dernière question pour notre invité Michel Bougenin.
Leïla.
Pierre.
comme tu as dit, Michel, que tu faisais les magnifiques, ton classique, tu le faisais tous les 20 ans, le prochain, tu auras 80.
Absolument. Ouais, j'aurai 80. Allez, je serai même plus vieux que mes personnages, bizarrement.
Et votre point de vue sur les humoristes actuels, là, on vient d'entendre nos deux humoristes maison. Vous parliez tout à l'heure de la politique, c'était pas totalement votre truc.
Le mec, il peut pas me saquer.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas parce que c'est pas mon truc que j'aime pas les humoristes politiques. Non, je trouve ça très, très bien, très important, très courageux. D'ailleurs, Mathieu Madénian, qui a attaqué Marine Le Pen, a été interdit, non pas à Fréjus, mais à Saint-Raphaël, qui est pourtant pas une ville Front National. Et il a décidé d'ailleurs de jouer à côté gratuitement et de verser la recette au Resto du Cœur. Donc ça prouve que ça a du sens que d'être un humoriste politique et ça prouve que ça a du sens de se battre contre les institutions.
Et vous aimez ça?
Oui, et puis il y en a d'autres, il y en a d'autres que j'aime
quand
pas.
Quand je vous pince, il faut qu'on conclue.
Faut que je ferme ma gueule,
non,
c'est
qu'on
ça.
Conclue.
Qu'on conclue.
Ouais. Et pour conclure, souvent, on a une tradition.
Oui.
C'est Daniel qui conclut et il est souvent désolé.
Oui, alors désolé pour tous ceux qui sont enfermés soit dans la peau d'un bousier, soit dans la peau d'un douanier, soit dans la peau d'une attachée de presse. Vous l'avez compris, avec la nouvelle de Pierre Lescure, vous ne pourrez plus bénéficier de la réincarnation. C'est fini, vous êtes coincé, le Dalai Lama ferme la boutique. Je suis désolé pour le dealer de shit de Nagui. Nagui vient de goûter à la beuh de Pierre Lescure. Il le prend comme fournisseur. Et je suis désolé pour les fournisseurs, pardon, pour les journalistes. Pour les journalistes des chaînes info, on continue jusqu'à l'évêque. On n'était pas sûr à 100% que c'était des blaireaux anxiogènes.
Merci Daniel. Voilà, merci Michel Bougenin, merci d'être venu.
Demain, et merci de m'avoir pincé aussi souvent.
De rien. Demain, Nagui reçoit Frédéric Becbédé dans la bande originale. Il y aura aussi Philippe Labro. Vous pouvez vous inscrire à l'émission pour y assister. Elle est en public sur la page, sur le site de France Inter. Et voilà, maintenant, c'est Carnet de campagne. Bonjour Philippe Bertrand.
Bonjour Chris. Ça y est, vous pouvez lâcher Michel Bougenin, c'est bon.
Et on peut lâcher le fauve.
Oui. J'ai entendu quand même que Michel envisageait de faire un film sur deux frères.
Oui.
Je voulais savoir lequel des inconnus il va exclure.
Allez, c'est la pub.
Salut.
À tout de suite.